Me voici aujourd'hui avec un excellent ami à moi, Jonathan Léveillé, qui est venu plusieurs fois sur le podcast et qui, au cours des prochaines semaines, va co-animer avec moi un nouveau type d'épisode qu'on va faire sur Hypercroissance, qu'on risque de sortir peut-être de manière hebdomadaire ou peut-être même de manière bimensuelle. On va voir, mais on s'est dit, il y a tellement de sujets dans l'actualité qui peuvent impacter nos entreprises, qui peuvent changer notre manière de voir les choses, qu'on s'est dit, pourquoi ne pas en parler? Pourquoi ne pas en parler ensemble? Le podcast Hypercroissance, on a une belle audience d'entrepreneurs qui nous écoutent semaine après semaine, qui écoutent des histoires inspirantes d'hommes et de femmes d'affaires dans le milieu francophone. Et ces gens-là nous expliquent comment ils ont atteint l'hypercroissance. Mais il y a également d'autres choses qui nous impactent dans l'actualité, comme l'inflation, comme la pénurie de main-d'œuvre. Bref, il y a tellement de sujets intéressants à discuter qu'on s'est dit qu'on allait faire un deuxième épisode un petit peu différent sur le podcast Hypercroissance. Jonathan, as-tu hâte de discuter de sujets croustillants aujourd'hui avec moi?
Vraiment hâte, Antoine. C'est un plaisir d'être avec toi et tous les auditeurs aujourd'hui pour cette nouvelle possibilité-là du podcast. Oui, très hâte.
Et Jonathan, peut-être si tu veux redonner un petit peu de contexte à l'audience, de ton organisation, de ce que tu fais au jour le jour pour que les gens soient capables de bien situer ton niveau d'expertise dans ton entreprise à toi.
Certainement, je suis le président fondateur de Open Mind Technologies. On est une soixantaine de joueurs à temps plein sur la rive nord de Montréal. On aide les entreprises à automatiser tout ce qui est technologie dans leur business, donc beaucoup de développement logiciel sur mesure, gestion des parcs informatiques également aussi. On est dans les 500 entreprises avec la plus forte croissance depuis 5 ans au Canada. Maintenant, 5 ans qu'on est dans les Great Place to Work également au Canada. Un grand fan de technologie, de business, de finance, de comment optimiser les choses également. Donc, c'est un grand plaisir de pouvoir discuter un petit peu des nouvelles d'actualité puis d'essayer de tourner autour du côté business à travers tout ça.
Exact, parce que c'est ce qui se déroule. On entend souvent des entretiens, des discussions, des experts en finance, des experts en économie, des experts sur plusieurs sujets différents. Mais au final, en tant que chef d'entreprise, comment ça nous impacte, nous? Comment ça nous impacte dans notre réalité quotidienne avec nos employés, avec nos clients et tout ça? Et également, peut-être pour situer l'audience aujourd'hui, vous m'avez déjà entendu sur le podcast, donc je suis l'animateur du podcast Hypercroissance. Mais au-delà de cette passion que j'ai pour le podcasting, je suis également un chef d'entreprise. Donc, je dirige quelques organisations. La plus grosse d'entre elles, c'est J7 Media, une organisation qu'on a une trentaine de collaborateurs à l'interne chez nous, une entreprise de prestation de services qui se spécialise en publicité Facebook. Donc, on aide des commerces en ligne à passer de croissance à hypercroissance. Et comme Jonathan, en étant dans la prestation de services, on a des réalités, des enjeux quotidiens qui, au final, peuvent être similaires. On va essayer de discuter de tout ce qu'on vit au quotidien et d'essayer de donner peut-être un petit peu de nos opinions et de solutions aux gens qui nous écoutent aujourd'hui. Et le premier sujet qu'on veut discuter ensemble aujourd'hui, c'est tellement drôle parce qu'on était dans un souper, je pense, la semaine dernière, Jonathan, ensemble, mais ça a été un des sujets les plus importants au souper là, avec tous les gens de notre groupe d'affaires. C'est ce qui est en train de se dérouler au niveau technologique présentement aux États-Unis. On dirait que depuis quelques mois, on dirait que depuis les annonces des résultats du premier trimestre, tous les stocks technologiques sont en train de descendre à vue d'œil. On va en parler dans quelques instants au niveau des statistiques. Mais est-ce que c'est quelque chose qui t'a surpris un peu de voir une descente aussi vertigineuse de ce qui est en train de se dérouler avec tous les stocks technologiques aux États-Unis, Jonathan?
On se le cachera pas que ça l'avait beaucoup, beaucoup, beaucoup monté depuis le début de la pandémie, même à un niveau qui fait pas vraiment de sens, qu'il n'y a pas de logique en arrière de ça. De tout ce qui est de l'analyse fondamentale, on regarde ça de l'extérieur et on dit, mon Dieu, faut que ça l'arrête à un moment donné. Mais pour répondre à ta question, que ça tombe aussi longtemps et aussi bas que ça, c'est, de mon point de vue, extrêmement surprenant. Et à chaque semaine, je me dis, ça va arrêter de tomber. Ça continue. J'ai hâte de voir où est-ce que ça va s'arrêter en cours de route, cette chute-là qui est assez vertigineuse. On va parler de chiffres un petit peu tantôt. C'est assez hallucinant, là.
Ouais, puis je pense qu'en ce moment, c'est pas le temps d'aller voir nos relevés de placement trop souvent parce que ça va donner des maux de tête, ça va donner des frustrations. Donc, on est mieux de laisser ça aller ultimement. Peut-être que les choses vont se replacer. Habituellement, les choses se replacent. D'ailleurs, je tiens à le dire, là, aujourd'hui, Jonathan et moi, on n'est pas des experts en finance ou des experts légaux. On va pas donner de conseils à l'audience aujourd'hui. Ça, c'est très important. On va simplement donner notre opinion sur ce qui se déroule. Donc, c'est un podcast aujourd'hui à vocation davantage éditorialiste que de conseils juridiques ou encore de conseils économiques. Donc, pour donner un petit peu de contexte aujourd'hui à notre audience, La majeure partie des entreprises technologiques ont annoncé dans les dernières semaines. Donc, nous, on enregistre le podcast le 20 juin 2022. Donc, habituellement, 1 à 2 mois après la fin d'un trimestre, les entreprises technologiques vont annoncer leurs résultats. Et la majeure partie des entreprises technologiques, il y avait un mot qui est revenu depuis un bon bout de temps déjà. C'est le, pardonnez-moi l'anglicisme, le hiring freeze. Donc, les Uber de ce monde, les Peloton de ce monde, les Facebook de ce monde, les Robinhood de ce monde, les PayPal même de ce monde, bref, les grosses entreprises technologiques ont annoncé que pour la prochaine année, ils allaient, pour la plupart de leurs départements, arrêter d'engager. Et je vais essayer de donner un petit peu de chiffres aujourd'hui à l'audience pour qu'ils soient capables de bien situer. Donc, Peloton qui a été un des stocks le plus grimpé de manière tellement rapide pendant la COVID pour des raisons évidentes. Donc, Peloton, c'est l'application qui te permet de t'entraîner à la maison. Également, c'est une entreprise qui, à la base, on achetait des vélos. D'ailleurs, on peut toujours acheter des vélos avec Peloton, mais tranquillement, ça s'est transformé en une application vraiment d'entraînement un petit peu plus global que simplement du vélo. Une organisation qui, en décembre 2021, juste pour donner un petit peu là, de contexte, avait une valorisation boursière de 11 milliards de dollars. En septembre 2021, une valorisation boursière de 21 milliards de dollars. Donc, en 3 mois seulement, ils ont perdu 15 milliards de valorisation. Et en juin 2022, là, je regardais ça tout à l'heure, c'est rendu à 3 milliards de dollars. La valorisation boursière de Peloton. Ils renvoient présentement 2800 personnes. Donc, clairement, là, les choses ont pas l'air de tellement bien se dérouler pour eux ici. Une autre entreprise technologique qui a beaucoup alimenté les discussions pendant la COVID-19, Robinhood. Robinhood, l'application que beaucoup de gens vont utiliser pour investir. Présentement, ils renvoient 300 personnes. Ils ont engagé 700 personnes de 2020 à 2021. Ils ont atteint 3800 employés au total. Mais encore une fois, selon les fondateurs, selon ce qui a été dit dans les états financiers, la croissance s'est faite trop rapidement. Une valorisation boursière en décembre 2021 de 22 milliards de dollars, le all-time high qu'on aime utiliser en anglais pour dire jusqu'à quel point le stock était haut, était à 39 milliards de dollars. Ça, c'est à l'été passé. Et présentement, au moment où on se parle, la valorisation boursière de l'entreprise est à 6 milliards de dollars. PayPal, qui est une entreprise qui emploie 30 000 personnes, ont renvoyé 83 personnes récemment. Et l'entreprise qui est certainement celle que tout le monde a vu passer récemment, qui a eu les plus grandes difficultés, c'est Netflix. Netflix qui a été en croissance continue depuis une dizaine d'années maintenant. Ils ont renvoyé ou ils vont renvoyer prochainement 150 personnes. Une valorisation boursière en décembre 2021 qui est passée de 267 milliards à juin 2022 à 76 milliards de dollars. Donc là, on voit là les stocks du Nasdaq, c'est plus compliqué. Qu'est-ce que ça dit tout ça, ces chiffres-là, Jonathan? De ton côté, en tant que chef d'entreprise au Québec, dans le milieu de la technologie, certes, pas avec un produit technologique, mais avec des services technologiques, quand tu vois ce qui se déroule avec des entreprises qui sont autant dans notre quotidien, qu'est-ce que ça t'envoie, toi, comme réflexion en tant que chef d'entreprise?
Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on est, on voit à l'heure actuelle le résultat d'une hypercroissance artificielle. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui roulaient à perte, qui roulaient sur du financement, qui venaient de levées de fonds ou de la bourse directement. Puis on engage, on essaie d'atteindre des chiffres, de faire croître le revenu, mais sans vraiment regarder la ligne du bas qui est souvent la plus importante au bout de la ligne. Et l'économie se met à ralentir, la compétition commence à être de plus en plus féroce. Et là, on se rend compte que c'est une vague qui est pas récurrente de croissance, c'est une vague artificielle. Et là, à ce moment-là, les leaders de l'organisation doivent rendre des comptes aux actionnaires. Et le premier réflexe souvent, c'est on coupe, dont dans les employés. Puis on le voit présentement, là, c'est ce qui est en train d'être fait. C'est quand même surprenant qu'il y ait autant de compagnies technologiques qui procèdent à ce point-là parce qu'il y a une pénurie énorme de main-d'œuvre. On le voyait, entre autres, là, une des entreprises qui ont engagé à peu près 700 personnes dans la dernière année puis en licencié 300. Ils ont dû avoir beaucoup de difficultés à aller chercher ces 700 personnes-là. Ils ont dû mettre beaucoup d'argent probablement pour aller les chercher. Ils sont obligés de les laisser partir du jour au lendemain. Ça doit faire sourciller beaucoup d'équipes de recrutement puis d'équipes d'RH. Mais je pense que la première des choses, c'est est-ce que c'était une hypercroissance qui est artificielle? Je pense qu'il y avait beaucoup de ces entreprises-là que c'était le cas. Beaucoup d'entreprises qui avaient un peu un fame extérieur qui est artificiel. Puis au bout de la ligne, c'est quoi la vraie valeur livrée aux clients? Puis c'est quoi le vrai bottom line de ces entreprises-là? On voit, ma grand-mère dit souvent, c'est quand que la marée descend qu'on voit qui se baignait pas sans maillot de bain, qui se baignait tout nu. Donc là, c'est un peu ça. La marée est en train de descendre. Ouais. On voit qui est habillé ou qui n'était pas habillé. Et là, il y en a présentement qui sont en mouvement rapide à ce moment-là pour tenter de s'alléger puis tenter de rendre des comptes aux actionnaires au bout de la ligne.
Ouais, puis je pense que si on analyse concrètement, c'est des entreprises Netflix, Robinhood, Facebook même, les médias sociaux en général, qui ont bénéficié comme pas possible de la COVID-19. Donc, eux, il y avait pas juste de levant dans le dos, là. Il y avait une tornade dans le dos parce que il y a tellement eu une surconsommation de ces services-là, que ultimement, et on dirait que c'est ce qui est en train de se dérouler quand on voit ce que les différents actionnaires ont dit, les différents fondateurs ont dit dans leurs annonces aux actionnaires à la fin des trimestres. Peloton, les gens pouvaient pas s'entraîner dans des gyms. Où est-ce qu'ils vont s'entraîner? Ils vont s'entraîner chez eux. Et, on fait souvent l'erreur que quand les choses vont super bien, on pense que tout va toujours bien aller. Et moi, ce que ça m'amène comme réflexion, c'est de se dire, quand tu sens que les choses vont trop bien, je pense que ça peut être bon de te poser des questions autour de toi sur quel est l'environnement macroéconomique. Parce que quand les choses vont trop bien, oui, t'es peut-être excessivement bon dans ce que tu fais, mais il y a peut-être des facteurs externes qui sont en train de t'aider dans cette croissance-là, de t'aider dans cette hyper-croissance-là. Robinhood, les gens avaient pas grand-chose à faire. Ils investissaient chez eux à la bourse. Ça a été démocratisé. Et quand tu commences à devenir peut-être un petit peu aveugle autour de ça, qu'est-ce que tu fais? Tu saisis l'opportunité, t'engages. T'oublies de regarder la ligne du bas. Tu regardes simplement la ligne du haut. Eh bien là, à un moment donné, malheureusement, comme tu l'as dit, la marée descend. Le vent arrête d'être dans ton dos, mais il est peut-être un petit peu plus dans ton visage. Et là, tu te retrouves que tu as tellement uniquement regardé le top line revenue plutôt que le bottom line revenue. Par contre, je tiens à mettre une petite parenthèse. Il y a beaucoup de ces entreprises-là qui sont excessivement profitables. Netflix en est une d'ailleurs. Mais tout de même, l'idée est la suivante. C'est que tu as tellement eu cette hyper-croissance-là et comme tu le disais, artificielle, reliée à des choses qui vont pas nécessairement durer, que là, à un moment donné... Puis je te pose la question, si toi, ça l'avait arrivé, qu'est-ce que t'apprendrais de cet environnement macroéconomique artificiel si quelque chose comme ça avait arrivé de ton côté? Qu'est-ce que ça t'apprendrait un petit peu ce qui est en train de se dérouler avec ces entreprises technologiques aux States?
Ben un petit peu avec qu'est-ce qu'on jasait ensemble la semaine passée à un souper, c'est que dans une hyper-croissance d'une entreprise, il y a toujours du gras qui s'accumule en cours de route. Et souvent trop, puis on s'en rend pas compte tant aussi longtemps que ce qui monte redescend. Là, quand on commence à redescendre, on le voit là, qu'il y a l'accumulation. Il y a peut-être une perte de productivité dans beaucoup d'endroits dans l'entreprise. Puis il faut commencer à partir un petit peu à regarder ça puis voir où est-ce qu'on peut alléger à ce moment-là l'avion pour être certain de continuer à voler puis continuer à avancer. Donc, je pense qu'il y a des bonnes leçons à tirer de ce qui se passe aux États-Unis dans nos propres entreprises. De regarder est-ce qu'il y a eu du gras qui s'est accumulé pendant les 2-3 dernières années? Est-ce que le fait qu'on a essayé de se réinventer aussi a fait qu'on a accumulé du gras dans certains endroits? Ou est-ce que ce qui était profitable avant ne l'est peut-être plus aujourd'hui versus la valeur qu'on livre vraiment aux clients? Autant la valeur perçue que la valeur réelle. Donc, je pense qu'il faut regarder dans chacune de nos entreprises, surtout avec ce qui s'en vient probablement en avant de nous. Ce qui se passe aux États-Unis souvent a beaucoup de répercussions ici au Québec par onde de choc. Donc, je pense qu'il faut vraiment se poser des questions en tant qu'entrepreneur. Là, qu'est-ce qu'on doit faire? Puis de faire un plan de match pour tenter de s'alléger puis s'assurer qu'on saisit toutes les opportunités d'une crise parce qu'il y a toujours des belles opportunités dans une crise si on est bien positionné. Là.
Ah, définitivement. Puis je pense que c'est ça qu'on va... En tout cas, ça, c'est la leçon, moi, de mon côté, que je retiens parce que je pense que c'est bien d'apprendre de ses erreurs. C'est encore mieux d'apprendre des erreurs des autres. Bon, encore une fois, c'est des entreprises qui sont à des dimensions totalement différentes de mon organisation et de la tienne. Mais tout de même, je pense qu'on peut prendre ces apprentissages-là et l'amener à une certaine échelle à ce que nous, on vit au quotidien. Mais clairement, quand les choses vont trop bien, posons-nous des questions et posons-nous également la question de se dire si demain matin... tout allait vraiment moins bien, est-ce que je suis en position de gagner? Et moi, ça me ramène continuellement à une vision d'avoir une organisation qui est beaucoup plus axée sur la profitabilité qu'une organisation qui est uniquement axée sur les revenus. Parce que la profitabilité, c'est pas uniquement quelque chose qui va te générer de l'argent pour peut-être avoir une plus belle vie ou pour peut-être faire davantage d'investissements dans ton organisation. La profitabilité, c'est également un gage de sécurité quand les choses vont moins bien. La profitabilité, c'est un gage de sécurité quand les choses vont moins bien parce que du jour au lendemain, si tu perds certains clients à cause d'un revirement de la situation au niveau macroéconomique, que tes revenus baissent, si tu as été capable de bâtir une organisation qui te donne un coussin au niveau de la profitabilité, tu vas avoir une bien plus grande marge de manœuvre pour te retourner et ne pas avoir à renvoyer et congédier et licencier des dizaines et des dizaines de collaborateurs. Hein? Une organisation qui est toujours sur la limite eh bien, quand les choses vont moins bien, automatiquement, est obligé de couper très, très, très rapidement. Mais si on a été capable de bâtir cette marge de manœuvre-là, cette marge de manœuvre qui, dans un cas ici, se définit par de la profitabilité, on risque d'être en position un petit peu plus, dans un rapport, un petit peu plus de force pour prendre des décisions qui vont pas être des décisions difficiles. Hein. C'est jamais le fun, je pense, pour personne d'avoir à licencier des gens comme les différentes entreprises qu'on a nommées ont pu le faire là, dans les derniers mois.
Effectivement, puis je pense qu'on a une responsabilité en tant qu'entrepreneur d'éduquer nos équipes par rapport à ça. Puis je donne un exemple de ce qu'on fait chez nous présentement, c'est que dans notre focus trimestriel, notre premier point, c'est billing, donc de venir le plus possible, le plus léger possible pour voir ce qu'on a des dépenses récurrentes. Tu sais, souvent, on a des abonnements, des SaaS récurrents qu'on n'utilise pas. Il y a des choses un petit peu partout dans l'organisation qu'on peut couper, qu'on peut optimiser. Donc, notre premier focus, c'est de billing, d'être un peu plus léger. Et le mot profitabilité est souvent mal vu, je pense, par les joueurs ou par les employés. Puis ce qu'on dit à notre gang, nous autres, c'est que la profitabilité, c'est de l'oxygène. Donc, on parle toujours en termes d'oxygène. Puis on dit si un corps humain manque d'oxygène, qu'est-ce qui arrive? Généralement, il ne survit pas longtemps. Donc,
exact.
Le but, c'est de
générer. Ou il est sur le respirateur artificiel avec de l'oxygène qui vient de l'externe d'investisseurs.
Exactement. Soit que ça vient d'investisseurs ou soit que ça vient de subventions du gouvernement aussi dans les deux dernières années. Je pense qu'il y a beaucoup, malheureusement, d'organisations qui vivent sur le respirateur artificiel, que leur oxygène qui fait qu'ils sont encore en vie provient de ces subventions-là qui viennent de terminer là, dans les dernières semaines. Donc, ça va être peut-être un contre-coup qu'on va avoir au Québec. Mais je pense que nous, on essaie toujours de se rapporter à ce concept. Là, de dire faut générer de l'oxygène pour être capable d'avoir nos ambitions, pour pouvoir concrétiser nos ambitions devant nous, mais il faut stocker cet oxygène-là aussi pour que la journée où ce que ça va aller un petit peu moins bien, qu'on soit capable de réutiliser ces bonbonnes d'oxygène-là, que ce soit des investissements, des placements ou de l'immobilier. Là. Donc, je pense que c'est important, chacun dans nos organisations, de se dire à quel point qu'on génère de l'oxygène présentement, à quel point qu'on est diligent également avec cet oxygène-là créé pour la réutiliser éventuellement dans des périodes un peu plus difficiles, mais d'éduquer vraiment toute notre gang que tout le monde a un pouvoir de s'assurer de maximiser cet oxygène-là et de l'utiliser à bon escient.
Bien sûr. Et te parler d'un point assez intéressant, quand les choses vont aller un petit peu moins bien, et c'est peut-être ce qui va se dérouler dans notre économie au cours des prochains mois. Donc, je rebondis ici pour parler un peu de ce qui se déroule au Québec. C'est des chiffres qui sont sortis. Donc, ça, c'est des chiffres. Les chiffres datent de avril. Ils ne sont pas encore sortis pour mai. Mais au mois d'avril 2022, l'inflation était à 6,8% au Québec. Et 6,8%, je suis pas tellement vieux, mais je suis quand même l'économie depuis quand même une dizaine d'années maintenant. J'ai jamais vu une inflation à 6,8%. Même moi, des fois, je me pose la question, ça veut dire quoi, ça, de l'inflation à 6,8%? Mais globalement, ça veut dire que les choses sont pas mal plus chères qu'avant. Donc ça, c'est un chiffre à se rappeler. L'inflation a augmenté de 6,8%. Puis habituellement, quand l'inflation monte comme ça, c'est souvent relié à une ébullition économique. Ça veut dire que l'économie va bien, il y a beaucoup d'argent dans le système, les choses ont l'air de bien se dérouler. Ceci étant dit, il y a tellement d'inflation qui est en train de se dérouler que pour arrêter cette inflation-là, et je me suis renseigné sur le sujet pour bien comprendre le tout, la Banque du Canada va augmenter les taux directeurs pour freiner un peu cette inflation-là. Et habituellement, quand les taux directeurs vont augmenter, il va y avoir une augmentation des taux d'intérêt, autant sur les hypothèques que des prêts étudiants. Bref, tout prêt qu'on va vouloir faire, les taux d'intérêt vont être beaucoup plus élevés. Et il y avait un super bon podcast que j'écoutais hier, qui est un podcast animé par un de mes idoles, Gérald Filion, sur questions d'intérêt, qui discutait avec des gens excessivement intéressants de la Banque nationale, qui disaient que quand les taux directeurs vont augmenter, que les taux d'intérêt vont augmenter également, on peut prévoir que dans un environnement de 6 à 18 mois, après cette fameuse inflation-là, se suivrait une récession. Et là, moi personnellement, je n'ai pas vécu en tant que chef d'entreprise la récession ou la crise économique de 2008. Je ne sais pas si tu l'as vécu, toi, Jonathan. Mais peut-être le dernier point, la dernière question qui serait intéressante d'aborder aujourd'hui ensemble, c'est si cette récession se concrétise, si ce break économique se concrétise dans la prochaine année, comment un chef d'entreprise peut se préparer à ça? Je pense que c'est un sujet assez intéressant.
Effectivement. Puis, je vais juste faire une parenthèse sur ce que l'économiste en chef de Desjardins a mentionné. Je pense qu'il y avait une phrase qui était super intelligente, qui est sortie, qui met un peu en perspective à quel point ça peut être dangereux pour nous, entrepreneurs devant nous, là. C'est avec un marché du travail aussi serré, des salaires qui augmentent, une économie qui roule à plein régime, tenter d'accomplir un atterrissage en douceur, ça a rarement été réussi. Puis c'est un peu ça que les variables économiques sur lesquelles le gouvernement essaie de tirer les ficelles à l'heure actuelle, c'est de faire un atterrissage en douceur d'un énorme avion qui est présentement en train de rouler à une vitesse qui devrait pas rouler. Donc, ça va être, je pense, difficile d'atterrir en douceur. Là, ils ont certains effets de levier comme les taux d'intérêt puis le taux directeur qui veulent faire bouger. Mais je pense que ça risque fort probablement de frapper fort. Puis pour répondre un peu à la question, bien, comment bien se préparer? Je pense que ça revient beaucoup à la logique de cash is king, vraiment de revoir sa stratégie de liquidité. C'est souvent quand il fait beau dehors qu'il faut aller renégocier avec nos banques, notre capacité ouais. de crédit, notre capacité financière, parce que quand il se met à pleuvoir, ils veulent malheureusement plus nous parler ou nous regarder. Donc, souvent, on entend souvent dire qu'une banque, c'est quelqu'un qui va te prêter un parapluie quand il fait soleil, mais qui va te l'enlever quand il va se mettre à pleuvoir. Donc, je pense que c'est vraiment le temps en tant qu'entrepreneur de regarder c'est quoi notre position de liquidité à l'heure actuelle pour faire face à ce genre de crise-là potentielle qui vient devant nous. Puis tant mieux si ça se concrétise pas, mais si jamais ça se concrétise, mieux vaut avoir plus de liquidité dans les mains que pas assez. Donc, de revoir notre position de liquidité puis revoir si on doit se refinancer pour aller chercher un peu plus de liquidité devant nous parce que quand l'avion atterrit vraiment trop fort sur la piste d'atterrissage, ça sera plus le temps là, d'aller voir les banques puis d'aller chercher un peu plus de liquidité pour être bien positionné, là.
Totalement. Puis ça, je tiens à le redire encore une fois aujourd'hui, on n'est pas des experts en économie, on n'est pas là pour vous dire qu'il va y avoir, qu'il ne va pas y avoir une récession. Je pense que le point est plus de se dire si on avait à vivre une récession en 2023, à la fin 2023, à la fin 2022 peut-être, ça peut être encore plus rapide, comment qu'on se positionne, comment qu'on se structure en tant qu'entreprise. Et je pense que tu le dis, cash is king. Et moi, peut-être un point que j'aimerais rebondir là-dessus, c'est que si cash is king, si on va avoir besoin de liquidité, ben effectivement, hein, les banques, on va les voir quand les choses vont bien, pas quand les choses vont moins bien. Donc, ça nous donne, encore une fois, un meilleur coussin. Mais je pense que ça peut être également intéressant en tant qu'organisation d'entourer des produits, des services qui, au final, ont pas tellement de grandes marges de profitabilité, encore une fois. Tu sais, très souvent, quand l'économie est forte, là, quand les choses vont bien, quand, encore une fois, je répète ce que j'ai dit un petit peu plus haut, quand on a le vent dans le dos, on se permet d'être excessivement fort en recherche et développement. On veut tester, on veut itérer, on veut peut-être changer un petit peu notre approche, on veut créer notre propre compétition pour voir si un jour quelqu'un arrivait et faisait quelque chose similaire, mais un peu différent à nous, est-ce qu'il serait capable de nous sortir vraiment du cadre là et de prendre toutes nos parts de marché? Il faut le faire plus souvent qu'autrement. Il faut le faire, ces recherches et développements. Mais ultimement, quand les périodes sont un petit peu plus difficiles, faut peut-être être un petit peu plus conservateur dans nos investissements, ce que beaucoup d'entreprises ont fait d'ailleurs au début de la COVID-19, quand personne ne savait ce qu'on allait faire. Et les entreprises, plus souvent qu'autrement, qui avaient cette marge de manœuvre-là, ce coussin économique-là, ont été capables d'être très agiles dans ce qu'ils pouvaient faire et de se retourner très rapidement. Loin de moi l'idée de vouloir faire de fausses comparaisons, mais je pense que si on est capable en tant qu'entreprise d'entourer les produits et les services qui ont une grosse marge de profit, d'entourer également les produits et services que si ultimement une récession, donc un pouvoir d'achat autant des entreprises que du consommateur est plus bas, quels seraient les produits et les services que j'enlèverais littéralement le temps que les choses aillent un peu moins bien? Je pense que c'est un point qui est important. Je sais pas pour toi, Jonathan, mais moi, je sais pertinemment que dans mon organisation, il y a des produits, il y a des services qu'on offre qui n'ont pas nécessairement une grande marge de profit, mais qui aident un petit peu à faire tourner l'entreprise et qui aident à solidifier peut-être d'autres départements. Mais clairement que si à un certain point, j'aurais une décision à prendre sur quel produit ou service que je garde et quel produit ou service que je délaisse, je serais capable de les entourer très rapidement. Et ça, je pense que ça peut déjà être quelque chose qu'on peut avoir en tête, sans nécessairement le faire aujourd'hui, mais d'entourer quel projet, quel produit, quel service on aurait à délaisser qui ne sont pas tellement profitables si, bien entendu, il y avait, encore une fois, un break économique.
Très bon point. Puis encore là, ça revient beaucoup au concept de dire où est-ce qu'on apporte la valeur perçue et réelle au client? Parce que s'il n'y a pas de valeur réelle livrer, mais généralement, il y aura peu ou pas de profitabilité au bout de la ligne. Donc, c'est se demander où est-ce qu'on est bon, où est-ce qu'on apporte de la valeur perçue et livrée à ces clients-là, puis de s'assurer de faire un peu de ménage ou du moins préparer un plan de match pour faire le ménage autour pour essayer de s'en sortir le mieux possible. Puis, il y avait Winston Churchill qui disait toujours « Ne gaspillez jamais une bonne crise. Si jamais ça l'avait à se concrétiser ici au Québec ou aux États-Unis, je pense que tout le monde a les mêmes cartes en main au bout de la ligne. Donc, ceux qui s'en tirent un peu mieux que les autres, ben ça génère des belles opportunités si on se positionne bien dans cette crise-là. Là. Et on peut penser entre autres à la pénurie de main-d'œuvre présentement qui freine, je pense, beaucoup de nos entreprises. Mais c'est peut-être tristement une crise peut-être comme ça qu'il faudrait pour essayer de restabiliser ou du moins équilibrer un peu plus le marché de l'emploi. Et on parlait des États-Unis tantôt qu'il y avait beaucoup de gens de mis à pied au niveau technologie. Je ne sais pas, Antoine, si tu avais déjà entendu parler de ça, mais il y a eu une étude de LinkedIn qui est sortie lors de la crise de la COVID, que c'était à Montréal où est-ce qu'il y avait le plus la plus grosse accélération de chasse de tête au niveau des gens technologiques. Parce que les États-Unis se sont rendus compte que le marché de Montréal est un très beau marché pour venir engager des gens en remote. Donc, c'est une des raisons pourquoi qu'on a vécu une grande accélération de la pénurie de main-d'œuvre en technologie dans les deux dernières années environ. Et ça va peut-être aider à donner un petit peu plus d'oxygène au marché pour venir nous aider à aller chercher des joueurs de qualité devant nous puis à stabiliser nos équipes, là.
Puis ça, je pense que c'est un point intéressant. Est-ce que tu penses également que c'est relié à toutes les subventions, les crédits d'impôt qu'il peut y avoir pour les entreprises technologiques au Québec? Parce que c'est quand même assez intéressant pour une organisation étrangère ou même pour les entreprises au Québec d'y aller à fond dans le volet technologique avec tous les crédits d'impôt. Là, ça doit être une des raisons aussi pourquoi c'est autant attractif.
C'est effectivement une très, très bonne raison. Puis si on regarde, si on dissecte, exemple, les états financiers de CGI, c'est quand même assez hallucinant la différence de marge de profit qu'il va faire dans un territoire comme la nôtre qui est ultra subventionné versus d'autres territoires, États-Unis ou Europe. Donc oui, pour ces entreprises-là internationales, de regarder ça et de voir la quantité de subventions que le gouvernement donne, c'est quelque chose de très alléchant dans leur modèle d'affaires, surtout avec l'ouverture du 100% remote aujourd'hui. Là. Et le coût de la vie, on ne se le cachera pas, à Montréal est beaucoup plus bas qu'un San Francisco de ce monde aux États-Unis. Donc, c'est normal que les salaires soient plus bas ici. Pour eux, ça devient une manne extrêmement intéressante pour venir embaucher des gens et c'est ce qui a en partie, je pense, déréglé beaucoup le marché ici à Montréal pour au Québec. On a encore ces contre-coups-là. Est-ce que si les États-Unis tombent vraiment en récession et peut-être nous ici un petit peu également, ça va aider à restabiliser? J'ose espérer et j'espère que oui, ça va venir donner un petit peu plus d'équilibre au marché de l'emploi à l'heure actuelle.
D'ailleurs, toutes les recherches qu'on vous a mentionnées brièvement aujourd'hui, les liens des entretiens, on va les mettre, bien entendu, dans les notes de l'épisode pour que vous puissiez vous y référer. Je veux revenir très rapidement sur le marché de l'emploi, mais avant, j'aimerais terminer, fermer un petit peu la boucle sur comment qu'on peut se préparer également pour une récession. Je pense que c'est également un bon moment aussi pour vous poser des questions à la vitesse que vous allez embaucher. Moi, c'était les deux points que je voulais mentionner à comment se préparer pour une récession. Je tiens à le dire, en toute transparence, je n'ai pas vécu de récession.
Je fais partie des chanceux qui ont toujours vécu dans un bull market jusqu'à maintenant.
Les choses se sont bien déroulées de mon côté. J'ai été assez chanceux, mais si ça avait à se dérouler, j'entourerais les produits, les services qui ont beaucoup de profitabilité et également, je me poserais des questions sur à quel point je veux faire de la recherche et développement si, bien entendu, il y a un break économique. Je reviens par contre à ton point. Et je pense que c'est sur ça qu'on va terminer aujourd'hui. Pénurie de main-d'œuvre, on le sait très bien. La raison pourquoi c'est le plein emploi et que le taux de chômage est aussi bas, c'est qu'on a une économie qui est excessivement forte en ce moment. C'est ce qui crée d'ailleurs de l'inflation. Il y a de l'argent qui a été injecté au Canada et dans plusieurs pays dans le monde depuis 2 ans de ça pour garder l'économie à flot avec la COVID. Il y a tellement eu de surplus qui ont été injectés qu'à un certain point, à un moment donné, il y a beaucoup d'argent dans l'économie. L'économie va bien, l'économie roule excessivement à fond de train. Donc, il n'y a pas tellement de chômage qui se déroule. L'employé a plus souvent qu'autrement le gros bout du bâton dans beaucoup de négociations. C'est ce qui se déroule en ce moment. J'imagine encore plus dans le volet technologique avec ce que tu nous as mentionné. Ne crois-tu pas, Jonathan, que s'il y avait peut-être, comme tu le disais, et je pense qu'on pourrait terminer là-dessus, un ralentissement économique, ben ça reviendrait un petit peu plus, c'est ça, à la normale, parce que c'est cyclique, hein? C'est cyclique ces moments-là. C'est pas vrai que c'est toujours l'employeur qui a le gros bout du bâton et c'est pas vrai que c'est toujours l'employé qui a le bout du bâton. Est-ce que d'ici peut-être 2023, 2024, on pourrait ne pas avoir à assister à une économie ou est-ce que finalement on revient un petit peu à ce qu'on était en 2016, 2017, 2018?
J'ai la perception de tout ce qui monte redescend. Donc, par la bande, tout système finit par s'équilibrer ou se régulariser. Fait que je pense que oui, ça va finir par se régulariser. Ça n'a pas le choix de finir par se régulariser. Ça peut pas continuer de même 5-10 ans. Est-ce que c'est une crise qui va permettre cette régularisation-là? Bonne question. Là, on n'a pas de boule de cristal. On va pouvoir le voir devant nous. Je pense qu'il y a des secteurs qui vont avoir plus de difficultés à se régulariser comme la technologie parce qu'il y a tellement de demandes à l'heure actuelle, même si une crise économique, il va encore manquer de gens. Puis on a certaines lois, entre autres, la loi 96 là, qui viennent de passer au Québec, qui va peut-être nous freiner à amener des talents de l'extérieur ici. Puis ça pourrait peut-être un sujet éventuel à discuter. Mais je pense que ça va être très difficile à voir quand ça va se régulariser, mais je suis convaincu que ça va finir par se régulariser.
Intéressant. Ben regardez, je pense qu'on va terminer tout ça aujourd'hui. Donc, c'est le premier entretien d'une série de plusieurs, on l'espère. On aime tellement le monde des affaires, Jonathan et moi, qu'on s'est dit pourquoi pas échanger nos opinions à l'intérieur d'un podcast d'une trentaine de minutes une fois par semaine. Donc, on va s'assurer de vous livrer des contenus du genre dans les prochaines semaines, ce qui serait excessivement intéressant là pour tous les gens qui écoutent le podcast aujourd'hui. Venez me parler sur LinkedIn, allez m'envoyer un petit message et dites-moi ce que vous avez pensé de la discussion. Dites-moi ce que vous avez pensé de la discussion. Un contenu comme le podcast, c'est très difficile d'avoir l'opinion des gens qui nous écoutent parce qu'on n'a pas nécessairement une connexion en temps réel comme on pourrait avoir sur les médias sociaux avec quelqu'un qui va répondre à une publication qu'on a faite. Donc, venez nous parler sur LinkedIn et dites-nous ce que vous en pensez. On veut savoir si vous aimez ce type de discussion-là, si vous aimez ce type de format de podcast-là. C'est quelque chose que j'espère faire depuis longtemps, doubler la fréquence de hypercroissance, le mettre à 2 fois par semaine. Si vous sentez que c'est un format qui pourrait vous plaire et que vous allez écouter dans le futur, venez nous en parler. Jonathan, merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui. On se redit, je pense, à la semaine prochaine pour aborder, pourquoi pas, le sujet de la loi 96 qui, comme tu l'as dit, je pense qu'encore une fois, ça va impacter beaucoup nos entreprises. Donc, on va discuter de tout ça. Merci de ton temps. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.